Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. À Londres et dans une trentaine de villes du Royaume-Uni, des milliers de personnes ont défilé hier contre la décision de Boris Johnson de suspendre l'activité du Parlement pour 5 semaines. Ils dénoncent un coup d'État. Reportage à Londres de Marina Darras dans un instant. Dans ce journal, nous irons aussi en Amazonie où les grands propriétaires terriens sont accusés d'être responsables des feux qui détruisent la forêt. Notre envoyé spécial Mathieu Mondoloni en a rencontré un, alors que dans une tribune publiée ce matin dans le JDD, des ONG et des parlementaires demandent une loi pour interdire l'importation de produits qui affaiblissent la forêt amazonienne. À Villeurbanne, hier, un homme a tué un jeune homme de 19 ans et blessé 8 personnes. Nous ferons le point sur l'enquête avec David Di Giacomo. Et puis nous irons voir un dispositif qui semble efficace pour lutter contre le chômage de longue durée, le territoire zéro chômeur que des centaines de communes aimeraient maintenant utiliser. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier au Royaume-Uni pour dénoncer cette décision de Boris Johnson de suspendre pour 5 semaines les activités du Parlement, un coup d'État selon leurs mots du Premier ministre britannique, selon ces manifestants qui ont défilé dans une trentaine de villes de Manchester à Édimbourg, mais aussi à Belfast et au Pays de Galles. Boris Johnson promettant toujours une sortie de l'Union européenne avec ou sans accord au 31 octobre prochain. Les organisateurs ont évoqué la participation de centaines de milliers de personnes. La police, elle, n'a pas communiqué de chiffres. Le plus gros rassemblement, c'était à Londres, devant le domicile du Premier ministre, au 10 Downing Street. L'opposition se met donc en place, Marina Darras, que ce soit à la Chambre des communes ou dans la rue.
Des milliers de manifestants sont descendus hier dans les rues de Londres, mais aussi dans une trentaine d'autres villes du Royaume-Uni. 32 manifestations en tout, mais un seul slogan, stop the coup, empêcher le coup d'État. Car pour beaucoup de Britanniques, la bataille pour le Brexit est devenue une bataille pour la démocratie.
Je suis venue avec mon fils aujourd'hui parce que je me bats pour son avenir. Pour moi, il s'agit de rester dans l'Union européenne, mais aussi de veiller à ne pas laisser les voix extrémistes prendre le dessus sur le Parlement et surtout sur le peuple, car les parlementaires sont notre voix. Ce ne sont pas les parlementaires qu'ils réduisent au silence, c'est nous qu'ils font taire, nous les citoyens de ce pays.
J'ai l'impression que nous touchons du doigt la fin de la démocratie britannique, que Boris Johnson fait peau de cas de nos institutions politiques. Si nous ne faisons rien maintenant, nous nous dirigerons lentement vers un système fasciste. Ça semble extrême, mais les temps sont devenus extrêmes et je me suis senti obligé de venir.
Pour beaucoup de manifestants, c'était la première fois qu'ils descendaient dans la rue. Pour eux, le gouvernement est allé beaucoup trop loin pour rester inactif.
Ce qui a mobilisé les gens aujourd'hui à manifester, c'est qu'ils ont le sentiment que des choses aussi fondamentales au Royaume-Uni que de pouvoir faire entendre sa voix, aussi fondamentales que le principe de tolérance et le respect des institutions, ont été complètement bafoués par la décision de Boris Johnson d'utiliser la suspension du Parlement pour diminuer leurs chances de pouvoir protester.
Alors que le gouvernement et le Parlement s'apprêtent à se livrer à un véritable bras de fer cette semaine, les organisateurs du mouvement de protestation soutiennent le recours aux actions pacifiques de désobéissance civile jusqu'au 31 octobre.
Marina Darras, l'Europe appelée à boycotter les produits d'importation brésiliens qui aggravent la déforestation alors que les incendies se poursuivent en Amazonie. Dans une tribune publiée ce matin dans le JDD, 17 ONG et 45 députés français demandent une loi à l'Union européenne. Les grands propriétaires terriens sont pointés du doigt. Ils seraient à l'origine de nombreux départs de feu qui leur permettraient notamment d'agrandir leur propriété en gagnant sur la forêt. Notre envoyé spécial Mathieu Mondoloni a rencontré l'un d'eux dans la région de Rondônia à l'ouest du Brésil.
Mort aux grandes propriétés, fermiers et ennemis de l'Amazonie, il n'est pas rare ici de trouver des inscriptions ou des banderoles accusant les grands propriétaires terriens. Comme Silas, qui dirige une exploitation de 800 hectares, il réfute ces accusations.
Cette histoire de mettre le feu, c'est du passé. Ça nous porte davantage préjudice que ça nous aide. Le feu, c'est une terreur. Est-ce qu'on brûle notre nourriture? Non. Alors pourquoi je mettrais le feu au pâturage et donc à la nourriture du bétail?
Quand on lui parle de déforestation qui serait une cause des incendies,
la déforestation qui respecte la limite légale, je ne vois pas de problème. Dans la région amazonienne, par exemple, on peut défricher 20% de sa propriété. Si la déforestation existe, c'est parce qu'il y a des intérêts économiques derrière. S'il manque de la nourriture pour la planète, je crois qu'il y aura plus de pression sur la forêt. On peut tous aider. Ce n'est pas seulement le producteur rural qui a la responsabilité de cette forêt, mais nous tous.
Car si les exploitations agricoles grignotent la forêt, dit-il, c'est pour répondre à la demande des gourmands marchés chinois et européens et de renvoyer ces derniers à leurs hypocrisies. En concluant, on a tous une part de responsabilité.
Mathieu Mondoloni, envoyé spécial de France Culture en Amazonie. En France, un homme armé d'un couteau a tué un jeune homme de 19 ans et blessé 8 personnes à un arrêt de bus de Villeurbanne en banlieue lyonnaise hier après-midi. 3 personnes seraient encore dans un état très grave à l'heure où nous parlons. Les motifs de l'agresseur restent flous. Il a été maîtrisé par les passants et le personnel du réseau de transport avant d'être arrêté par la police, David Di Giacomo.
Ce demandeur d'asile afghan est âgé de 33 ans. Il est inconnu des services de police et de renseignement. On ne sait pas depuis combien de temps il est arrivé en France. En garde à vue, il commence par décliner plusieurs noms devant les enquêteurs qui finissent tout de même par l'identifier. Il reste alors silencieux et ne fournit aucune explication sur ses motivations. Et hier après-midi, devant un arrêt de bus bondé de Villeurbanne, cet homme s'attaque à plusieurs personnes. Il est armé d'un grand couteau et d'une fourchette à barbecue. En quelques minutes, il tue un jeune de 19 ans et fait 8 blessés. Ce sont des passants et des agents des transports en commun lyonnais qui parviennent à le maîtriser. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent d'ailleurs l'agresseur agenouillé et prostré avant l'arrivée de la police. Pour l'heure, il s'agit d'une enquête criminelle confiée à la police judiciaire lyonnaise pour assassinat et tentative d'assassinat. À ce stade des investigations, la piste terroriste reste donc écartée.
David Di Giacomo. La rentrée politique, c'est au tour de la droite ce week-end avec l'université de Les Républicains qui se tenait hier à la Baule devant seulement 400 militants en Loire-Atlantique. Il n'y avait pas beaucoup de monde du côté des cadres, en dehors du président du Sénat, Gérard Larcher. Les 3 candidats à la présidence du parti aussi, bien sûr, Guillaume Larrivé, Julien Aubert et Christian Jacob, donnés favoris. Mais après la défaite de la présidentielle en 2017 et le très mauvais score obtenu aux européennes en mai dernier, le défi de reconstruire prendra du temps.
Notre famille, elle est éclatée, elle est dispersée, on ne va pas se raconter d'histoire. Donc il faut rassembler, il faut réconcilier, et il faut rebâtir ensemble. Vous savez, l'électorat de droite, il existe en France. Eh bien, il faut que nous leur donnions envie de nous faire confiance. Ça veut dire qu'on a un travail de fond à faire. Il faut aussi être capable d'ouvrir et d'aller sur des sujets où on a peut-être été moins présent ces derniers temps. Je pense à la valeur travail, je pense que sur la liberté d'entreprendre, il y a beaucoup à faire sur les sujets comme l'environnement, comme le numérique. Donc, et ça, vous voyez, ça n'est pas un homme providentiel qui va sortir ça. C'est notre capacité, dans un cadre collectif, en utilisant tous les talents que nous avons dans notre famille pour pouvoir le porter. Vous savez, le rendez-vous, il est dans 2 ans et demi. Moi, je suis un paysan. Je respecte le rythme des saisons et je sais surtout qu'avant de récolter, avant de faire la moisson, il faut d'abord semer. Et donc, aujourd'hui, on n'est pas au moment de la récolte. Et respecter le rythme des saisons, c'est préparer les municipales, les départementales, les régionales et viendront seulement après les présidentielles et les législatives.
Le député Christian Jacob au micro de Stéphane Robert. C'est un dispositif efficace pour lutter contre le chômage. Depuis 2 ans et demi, 10 territoires ont été choisis pour tenter l'expérience territoire zéro chômeur de longue durée. Et hier, une université d'été a eu lieu à Paris sur le sujet. Cette initiative fonctionne et conséquence donc 200 autres territoires sont désormais intéressés par ce dispositif en France. Mais il faut attendre qu'une deuxième loi, après celle de 2016, soit votée. Reportage à l'université d'été d'Adrien Paluet.
Denis Prost est chef de projet du territoire zéro chômeur de Pripyat et Saint-Ganton en Ille-et-Vilaine, qui est l'un des 10 lieux d'expérimentation. Dans l'entreprise à but d'emploi qui y est implantée, 80 personnes ont été embauchées.
2 ans et demi après, effectivement, on tire un bilan très positif. D'abord, bien sûr, pour les gens qui retravaillent, pour qui ça a complètement changé la vie, mais aussi pour le territoire. C'est un territoire plus dynamique, il y a plus de consommation locale, c'est bien pour les commerces, on a des nouveaux services, on a mis en place une petite épicerie ambulante. Et puis, on voit localement une société de travail qui se recrée. Les aides versées par la commune aux gens en difficulté, elles ont baissé de près de 40%.
Cette réussite donne des idées. Près de 200 territoires tentent de lancer un projet similaire en attendant qu'une deuxième loi élargisse le dispositif. Jacques Lec anime la mise en place d'un territoire zéro chômeur entre Bouffémont et Moisselle dans le Val d'Oise.
Depuis début 2019, on a des locaux, on a un chef de projet et donc on est en train de se structurer. C'est-à-dire que tous les lundis matins, on rencontre les personnes au chômage de longue durée. Tous les vendredis matins, on a notre activité de groupe projet. Et puis, on est en contact avec les entreprises.
L'idée séduit en France, mais pas seulement. Elle fait aussi des émules à l'étranger, selon Laurent Grand-Guillaume, président de l'association Territoire Zéro Chômeur de longue durée.
D'autres pays se sont saisis du projet. Par exemple, en Belgique, ils veulent lancer un territoire à Bruxelles et à Charleroi. L'ambassadeur d'Allemagne en France aussi est allé visiter un territoire. Et puis, on est accompagné aux États-Unis par l'université d'Harvard. C'est une idée française qui s'exporte et je l'ai présentée il y a quelques mois devant une quarantaine de représentants de pays à l'OCDE.
La période de test pour les 10 premiers territoires doit prendre fin en février 2021.
Adrien Palluet pour France Culture. La météo, des orages sur l'Auvergne, de la pluie sur les Pyrénées, du soleil partout ailleurs, température en baisse, 16 à 25 degrés ce matin. C'est la fin de cette édition préparée avec M. Le Chili et avec Jean-Frédéric Salatechnique.